Nous approchons rapidement du début du cycle des fêtes de Dieu, le cycle annuel. On approche de la fête de la Pâque, de la fête des pains sans levain. Ça veut dire qu'on a commencé à nettoyer nos maisons du levain physique, nos voitures, ainsi de suite, pour qu'il ne reste pas de produits levés ni de levain dans nos maisons, comme Dieu nous en donne la directive. Puis en même temps, on a commencé à faire nos lectures et à réfléchir sur le fait de s'examiner avant la Pâque pour vraiment changer. Qu'est-ce qu'on désire apprendre dans la Pâque et les pains sans levain qui s'en viennent? Et c'est très important. Qu'est-ce qu'on désire approfondir? Vous savez, chaque année, ceux qui prennent la Pâque, c'est-à-dire les gens qui sont baptisés, la Bible nous montre que c'est ce qu'il faut faire, ceux qui prennent la Pâque, les baptisés, doivent en fait connaître de mieux en mieux le grand Dieu de la Pâque, le Dieu qu'on sert. Il doit y avoir une croissance dans notre connaissance de Dieu et dans le développement de notre relation avec lui. Aujourd'hui, je tire l'essentiel du message que je vous donne d'un sermon qui m'a frappé de la part de M. Peter Nathan. Et le titre du sermon, c'est « Une facette de la Pâque, connaître Dieu ». Et je pourrais dire une facette majeure de la Pâque, le fait de connaître Dieu. Et ça, c'est la grande leçon qui se dégage des circonstances de la toute première Pâque qui a été célébrée dans l'Ancien Testament et dont on voit la description dans le livre d'Exode. Rappelez-vous que Moïse, c'était un Israélite, un Hébreu. Son nom, Moïse, d'ailleurs, veut dire « sauver des eaux ». On connaît un petit peu l'histoire. C'était à l'époque où le Pharaon avait ordonné de tuer tous les enfants mâles nés chez les esclaves israélites, parce que les Israélites commençaient à être très nombreux, et là, le Pharaon a fait tuer tous les enfants mâles à leur naissance. Et Moïse, lui, a été épargné. Dieu était derrière tout ça, il préparait ce qu'il y avait à venir. Alors Moïse, à cause de ça, a été élevé par la fille de Pharaon, et à un moment donné, vous savez qu'il avait tué un Égyptien, il voulait s'interposer dans une querelle, il a tué un Égyptien, et après ça, ayant peur des conséquences de la part de Pharaon, il s'est enfui. Il a été longtemps en fuite. Il s'est enfui au pays de Madian, comme on voit dans les textes. Il a épousé la fille d'un homme connu dans la région, Jéthro. Et au bout de 40 ans, dans cette région de Madian, Dieu lui ordonne d'accomplir une mission. Allez dans Exode chapitre 3. On va travailler beaucoup dans le livre d'Exode au cours du sermon, surtout dans Exode. Exode chapitre 3 et le verset 10, Dieu commande à Moïse d'aller diriger, pour ainsi dire, la délivrance que lui va donner à sa nation d'Israël. Alors donc, le verset 10 de Exode 3, c'est Dieu qui parle à Moïse, « Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Maintenant, allez dans Exode chapitre 5, juste une page plus loin. Et là, on voit la première fois que Moïse s'est présenté devant le Pharaon. Et ça, ça marque le tout début d'un long processus qui allait mener à la destruction totale de la puissante armée de l'Égypte. Exode 5, verset 1. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, là, il y avait un message de la part de Dieu. Ils ont dit à Pharaon, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Alors, c'est une demande qui était forte, là. Vous avez des représentants d'un groupe d'esclaves qui s'en vont devant l'empereur et qui lui disent, « Laisse aller mon peuple. » Demande très forte. Puis je pense que Moïse l'a fait avec force aussi. Mais la réponse a été aussi forte, sinon plus. Verset 2, Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel ?» C'est qui ça? De qui est-ce que vous me parlez pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Je ne connais point l'Éternel. Vous me parlez de quelqu'un que je ne connais absolument pas. Versets 3 et 4. Et ils dirent, le Dieu des Hébreux nous est apparu Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste et de l'épée. » Et le roi d'Égypte leur dit, « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux, allez-vous-en travailler. Ne me cassez pas les oreilles avec ça. » Il revient à son idée, qui est l'Éternel dans le fond. On pourrait dire, nous, qui est Jésus-Christ? Parce que l'Éternel de l'Ancien Testament, c'était Jésus-Christ du Nouveau Testament. Qui est Jésus-Christ? À qui nous devons obéir? Ce que Pharaon avait à l'esprit à ce moment-là, c'est qu'il s'est dit, ces gens-là n'ont pas assez d'ouvrage. Ils ont trop de temps pour penser, puis réfléchir, puis avoir des idées. On va s'occuper de régler le problème. On va leur donner du travail. Ils vont être occupés, ils n'auront pas le temps de faire d'autres choses. Je ne connais pas l'Éternel. Cette idée de devoir apprendre à connaître l'Éternel, elle est présente, vous allez voir, tout au long de l'Exode. Et c'est intéressant de lire ces chapitres-là en approchant la Pâque, parce que ça nous remet dans le contexte de la première Pâque, de ce qui est arrivé, et il y a beaucoup de leçons pour nous. Alors, cette idée-là d'apprendre à connaître l'Éternel, elle est présente tout au long de l'Exode. Puis elle est très présente et même accentuée, on va le voir à la fin du sermon, au moment de la dernière Pâque que le Christ a pris avec ses disciples. On le verra plus tard. Et cette même idée-là de devoir encore continuer à apprendre à connaître l'Éternel doit être avec nous. On doit en être conscient et on doit chaque année avancer plus loin pour connaître l'Éternel, pour être plus proche de lui. Si on veut prendre la Pâque en développant réellement la seule vraie relation que nous devons avoir avec le Christ et avec son Père. Nous devons savoir, sans l'ombre d'un doute, qui est l'Éternel. Et compter sur lui, quelles que soient les circonstances, même qui peuvent sembler totalement contraires et où il semble ne pas y avoir d'issue dans certaines situations. Ça nous apprend beaucoup de choses. Exode 5 décrit en fait différents personnages qui sont impliqués dans l'histoire et qui ne savaient pas qui est l'Éternel. Ce qui a conduit au 10 plaies, ce qui a conduit à la Pâque, à la mort des premiers-nés et ensuite à la sortie d'Égypte. Les gens impliqués, et je vais plus loin, tous ceux qui étaient impliqués ne connaissaient pas l'Éternel. Tous ces gens-là devaient apprendre ces choses-là, devaient apprendre à connaître l'Éternel, et de façon très forte. Et ça a été fort. Comme des fois, c'est fort dans la vie de certains d'entre nous aussi, quand Dieu intervient et frappe pour nous révéler des choses et nous aider à changer. Le premier personnage qui ne connaissait pas l'Éternel et qui a entrevu l'Éternel, c'est Pharaon lui-même, l'empereur de cet empire. Deuxièmement, les Israélites devaient aussi apprendre à connaître qui est l'Éternel. Et ils ne savaient pas qui il était. Tout ce qu'ils voyaient, eux autres, les Israélites, suite à l'intervention de Moïse et d'Aaron pour aller voir Pharaon, c'était davantage de travail à faire. Ça va bien, hein? Nos chefs vont voir Pharaon pour qu'on puisse aller faire des sacrifices dans le désert. Résultat, on a plus de travail à faire. Ça, c'était la limite de leur compréhension de Dieu. Ils ne voyaient pas Dieu derrière tout ça, absolument pas. Et les chefs d'Israël se sont même tournés contre Moïse et contre Aaron. Ils n'avaient aucune compréhension de qui est l'Éternel et de ce qui se passait, ni de ce que l'Éternel peut faire. Ils n'avaient aucune compréhension qu'il est le Tout-Puissant. On va le voir au cours de l'histoire, mais je vous situe déjà le contexte. On est dans Exode 5, allez au verset 15 et 16. « Les commissaires des enfants d'Israël, donc les chefs de la nation, allèrent se plaindre à Pharaon après ça et lui dire, « Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? Pourquoi tu nous traites comme ça? » Verset 16, « On ne donne point de paille à tes serviteurs et l'on nous dit, « Faites des briques. Et voici, tes serviteurs sont battus comme si ton peuple était coupable. » Ils ont dit à Pharaon, « Écoute, il faut en même temps leur amorcer de la paille, ce qu'on ne faisait pas avant, et faire le même nombre de briques. Notre travail, il est doublé, c'était déjà difficile. » Versets 17 et 18, Pharaon répondit, « Vous êtes des paresseux. Voilà pourquoi vous dites, « Allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Vous voulez vous payer une vacance à mes frais. Vous êtes des paresseux. Non, ça ne marche pas. » Verset 18, « Maintenant, allez travailler. On ne vous donnera point de paille et vous livrerez la même quantité de briques. Ça allait de mal en pis. Ça continuait de se détériorer. Versets 19 à 21. Qu'est-ce que font les chefs d'Israël qui étaient allés voir Pharaon et qui s'étaient fait répondre de cette façon-là? Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux en disant « Vous ne retrancherez rien de vos briques. Chaque jour, la tâche du jour. » En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Verset 21, ils leur dirent « Que l'Éternel vous regarde et qu'il vous juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. » Voyez-vous comment la situation devient catastrophique? Et pour Moïse et Aaron, les serviteurs de Dieu, ils étaient comme coincés, là. Ils n'avaient aucune idée, les Israélites, de qui est Dieu, de ce qu'il était en train de préparer, de ce qu'il était en train d'accomplir. Rien, rien, rien. Ce qu'ils voyaient, c'est qu'ils voyaient uniquement la vie sous l'angle de leurs difficultés quotidiennes. Parfois, on a tendance à faire ça aussi. Et c'est quelque chose qu'il faut apprendre, faire confiance à Dieu, en autant qu'on est fidèle à travailler, à lui obéir, mais faire confiance à Dieu. Mais ils voyaient la vie sous l'angle de leurs difficultés quotidiennes, le nombre de briques à faire par rapport au nombre de lumière, d'heures de lumière qu'il y avait d'une journée. Il était coincé. Troisièmement, il y a quelqu'un d'autre aussi qui ne connaissait pas encore vraiment qui est l'Éternel, notre fameux Moïse. Moïse ne connaissait pas encore qui est l'Éternel. On voit, il y a une progression là-dedans. Moïse avait un problème. Depuis que l'Éternel lui était apparu dans le buisson ardent pour lui donner la mission, il cherchait toujours à transférer ses responsabilités à quelqu'un d'autre. Il avait l'ordre de la délégation, mais totale, pour ne pas avoir de responsabilité. C'est ça qu'il a dit à Dieu, qu'on voit. Il ne comprenait pas encore. Regardez versets 22 et 23. À la suite de ça, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait mal à ce peuple? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi m'as-tu envoyé? Tu m'as envoyé et il n'y a rien changé. C'est pire. Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. » Ça, c'est un raisonnement humain. Ça se comprend. Et dans le fond, il dit à Dieu, « Écoute, Dieu, malgré tes promesses, tout ce que nous avons, c'est des problèmes encore plus gros. Qu'est-ce qui se passe? » On voit là derrière ça que Moïse aurait vraiment préféré se retrouver au désert avec ses moutons. Hein? Parce que là, il n'y avait pas de grande responsabilité. C'était la vie tranquille, comme depuis 40 ans. La vie était beaucoup plus simple, et ainsi de suite. Puis, Dieu lui dit qu'il va lui faire voir sa puissance. Et au cours de notre vie, Dieu fait ça avec nous aussi. Il permet qu'on ait certains problèmes, qu'on apprenne à compter sur lui, et à travers ça, il nous montre sa puissance. Mais là, Dieu va montrer à Moïse sa puissance dans les événements prochains, pour que Moïse commence à voir qui est l'Éternel. Pour que Moïse commence à voir qui est l'Éternel. Exode 6, verset 1. Exode 6, verset 1, lisons. L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant. » Autrement dit, Moïse, garde, tu n'as rien vu encore là. Je n'ai pas commencé à vraiment préparer les choses. Aie confiance. « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays même. » Il donne comment ça va finir, comment l'histoire va finir. Puis après ça, il renforce sa déclaration en précisant que lui, il est l'Éternel Tout-Puissant, qui soutient toute chose et qui est derrière cette situation. Versets 2 et 3. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob. Comme le Dieu Tout-Puissant, mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. » Voyez-vous la différence ici qu'il fait en ce qui concerne qui il est réellement. Allez au verset 6 maintenant. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Donc il dit ici, vous allez voir sans l'ombre d'un doute, se produire des événements majeurs où ça va mener à votre délivrance. Et regardez le verset 7. « Je vous prendrai pour mon peuple. » Il avait dit à Moïse de dire ça aux Israélites. « Je vais vous prendre pour mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. » Et vous saurez, quand ces événements-là vont arriver, alors vous saurez, vous, Moïse, Aaron, les Israélites, vous apprendrez d'une façon forte qui je suis, qu'est-ce que je fais, que c'est moi qui contrôle l'histoire de l'humanité, selon les choses que je veux établir. Il y en avait d'autres aussi qui devaient apprendre des choses. Nos amis les Égyptiens. Les Égyptiens devaient apprendre quelque chose. Parce que les Égyptiens, si vous regardez le contexte, ils étaient des complices heureux de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient travailler des esclaves. Il y avait de la main-d'œuvre plus que bon marché, gratuite, qui faisait les travaux pour eux. Ils ne demandaient pas mieux. Donc, la vie pour eux était plus facile. Et rappelez-vous que c'est eux, les Égyptiens aussi, qui avaient participé à l'infanticide de tuer les petits bébés au moment de la naissance de Moïse. Ils avaient participé à cette tuerie-là. Ils ne voulaient pas perdre leur précieuse main-d'œuvre qui rapportait et qui leur donnait une bonne vie. Pharaon et les Égyptiens avaient un pouvoir absolu sur toute la nation d'Israël. C'est ça qu'il y avait. Il n'y avait pas d'issue possible. Il y avait seulement Dieu qui pouvait intervenir pour régler le problème. Comme c'est le cas actuellement dans ce qui se profile à l'horizon, alors qu'il y aura seulement Dieu qui pourra mettre un terme aux horreurs qui vont se développer bientôt, et même au monde souffrant qui existe maintenant. Quelle que soit la largeur, la grandeur, la hauteur de leur pouvoir, les humains, et ça vous le savez, s'accrochent à tout prix à leur pouvoir, si petit ou si grand soit-il. Même quelqu'un dans une compagnie ou quelqu'un dans un milieu de travail ou ailleurs qui a un petit poste ou quelque chose, parfois certaines personnes vont s'accrocher à leur poste de façon épouvantable, vont être prêts à faire tous les coups possibles pour garder leur poste. Et quand le poste est plus important, bien, c'est encore plus fort. Vous voyez en Algérie actuellement un vieux monsieur, Bouteflika, qui est plus là, mais qui est là, et qui veut, tient à garder le pouvoir. Vous avez Assad en Syrie, en train de détruire complètement son pays, et qui tient au pouvoir à tout prix. Et je vous dirais que dans les élections, que ce soit au municipal, au provincial, au fédéral, au national, tous ceux qui sont élus, la première chose à laquelle ils pensent le soir de leur élection, c'est à leur réélection. Donc, à garder le pouvoir qu'ils viennent d'avoir, et le plus longtemps possible. Monsieur Peter Nathan parlait du Kenya, parce que c'est un amoureux de l'Afrique, et il a vécu quelques années là-bas, et il disait au Kenya, il y a plusieurs tribus, et il y a une des tribus qui est en charge, et quand c'est une tribu qui est en charge, elle fait tout pour éloigner au maximum les autres tribus, pour être certain qu'ils ne prendront pas leur place, voyez-vous? D'autres encore devaient aussi apprendre qui est l'Éternel. Là, je vais parler de vous ici et de moi. D'autres devaient encore apprendre qui est l'Éternel. Les événements de la première Pâque et de l'Exode, c'est pas seulement pour ceux qui ont vécu l'événement. C'est pour les générations à venir, y compris nous. C'est une puissante leçon à partir de là pour toutes les générations futures, jusqu'à nous aujourd'hui et jusque dans le monde de demain, quand nous allons expliquer aux survivants de la Troisième Guerre mondiale le sens de l'histoire et que nous allons leur rappeler ces choses-là. Exode 10, verset 1. Exode chapitre 10, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. » Et regardez le verset 2 surtout. « C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Voyez-vous? Et vous saurez. Ça, c'est Moïse, les Israélites et les autres impliqués. Et rappelez-vous que c'est Moïse qui a eu la responsabilité d'écrire le Pentateuque, les cinq premiers livres de la Bible. Alors, il a relaté ces choses-là, lui qui les a vécues. Et vous saurez, ça comprend toutes les générations qui allaient suivre. Et c'est là une leçon essentielle pour ceux du peuple de Dieu, à toutes les époques, quelles que soient leurs circonstances. Et il y a certains du peuple de Dieu, à certaines époques, comme au Moyen Âge, qui ont vécu des circonstances épouvantables. Mais il a fallu qu'ils voient derrière ça un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants, même si parfois il permet qu'on passe par des circonstances difficiles. Et toute l'humanité doit un jour en arriver à comprendre cette même leçon. Qui est l'Éternel? Et ces textes-là sont écrits pour nous. Et on apprend à partir de là. Maintenant, la question que je pose pour vous et pour moi, en cette saison de l'année où les fêtes du printemps s'en viennent, la Pâque et les pains sans levain, la Pâque et les pains sans levain vont-elles nous amener à mieux connaître l'Éternel? Il faut, parce que c'est le but de l'opération, que chaque année, on soit plus proche de Dieu, qu'on ait compris davantage de choses. Dieu nous conduit dans la vérité et dans l'approfondissement de la vérité, mais dans la solidité à lui obéir aussi. Question, comment Dieu fait-il pour amener cette connaissance dans les humains? Ou comment Dieu fait-il pour se faire connaître ou pour provoquer la connaissance de qui il est dans les humains? On va recommencer notre scénario. On va commencer par le Pharaon. Comment est-ce qu'il a fait pour provoquer le fait que Pharaon a réalisé dans une petite mesure qui est l'Éternel? Dieu devait lui montrer qu'il n'était pas le personnage important qu'il pensait être. Parce que Pharaon, c'était un demi-dieu. Si vous regardez dans l'histoire, Pharaon, c'était un demi-dieu. Et Dieu devait lui montrer qu'il n'était pas le personnage important qu'il se pensait, qu'il n'était rien de plus qu'un être humain, point à la ligne. Le rôle premier d'un pharaon, quand vous regardez l'histoire, c'était de maintenir, et là je vais vous sortir un grand mot, bien, c'est-à-dire un court mot, mais inhabituel. Le rôle de Pharaon, c'était de maintenir Ma'at. Ça s'écrit M-A-A-T. Vous pourrez aller voir sur Google. M-A-A-T. Le rôle d'un pharaon, c'était de maintenir Ma'at, c'est-à-dire l'harmonie dans la nation. Donc, de supprimer le chaos. Il ne fallait pas qu'il y ait de chaos. Il fallait qu'il y ait de l'harmonie dans la nation. C'était le rôle de Pharaon. Mais plus que ça, Ma'at, c'est le nom d'une déesse de cette époque. La déesse de l'harmonie universelle. C'est pour ça que c'était le rôle de Pharaon de maintenir l'harmonie dans la nation. Et cette déesse-là, supposément, opérait à travers Pharaon, l'inspirait. Mais Pharaon avait quand même la latitude d'interpréter les désirs de la déesse et d'agir en conséquence. En d'autres mots, il faisait ce qu'il voulait, déesse ou pas. Un peu comme les gens qui ont toutes sortes de croyances dans le monde actuellement et qui font quand même ce qu'ils veulent. Ils ne font pas ce que Dieu dit dans sa parole. Donc, je reviens à ça, Pharaon représentait une divinité. C'est par les 10 plaies que Dieu s'est fait connaître à Pharaon. Et je vais revenir sur le chiffre 10 tantôt, mais c'est par les 10 plaies que Dieu s'est fait connaître à Pharaon. Dieu a commandé à Moïse un bon matin d'aller près du Nil à la rencontre de Pharaon et de commencer la série d'événements catastrophiques qui allaient se développer par la suite. Allons à Exode chapitre 7. Exode chapitre 7, et on va lire à partir du verset 14. L'Éternel dit à Moïse, « Pharaon a le cœur endurci. » J'attire votre attention sur ce petit bout de phrase ici. « Pharaon a le cœur endurci. » Je vais revenir là-dessus tantôt pour vous expliquer un point important. Pour le moment, lisons le verset 14 à 18. L'Éternel dit à Moïse, « Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller mon peuple. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent et tu diras à Pharaon, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Ainsi parle l'Éternel, « À ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront. Le fleuve se corrompra et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. Les eaux changées en sang. » OK? Alors, c'est comme ça que l'Éternel s'est manifesté pour amener Pharaon à voir qu'il existait, qu'il est réel. Verset 22, regardez ce qui s'est passé. Par contre, les magiciens de Pharaon, il y avait toute une équipe de magiciens qui faisaient des prodiges. Les magiciens de Pharaon étaient capables de faire pareil. Verset 22. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements. Et le cœur de Pharaon a continué de s'endurcir, comme on voit. Ça va plus loin parce que Dieu a fait une progression dans les plaies. Il y a eu d'autres plaies ensuite. Il y a eu des grenouilles partout. Quand on dit partout, c'est partout, même dans le lit de Pharaon qui disait là. Mais les magiciens ont pu faire la même chose aussi. Exode 8, versets 2 et 3. Je saute d'un endroit à l'autre pour vous donner la structure de la suite des événements pour la fin de mon propos, tout simplement. Exode 8, versets 2 et 3. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Mais les magiciens en firent autant par leurs enchantements, et ils firent monter des grenouilles sur le pays d'Égypte. Il y avait un concours de grenouilles. Alors, ça devait en faire plusieurs, et on voit ailleurs qu'il y en avait vraiment partout. Hein. Alors là, le pharaon va se retrouver dans une position où un pharaon ne doit pas se trouver, rendu à cette étape-là. C'est qu'il se retrouve devant une situation qu'il est incapable de contrôler. Rappelez-vous qu'un pharaon doit contrôler l'harmonie du pays, il ne doit pas avoir de chaos. Et là, il se retrouve dans une situation où il n'est pas capable de contrôler le chaos. La situation commence à se retourner parce que les magiciens n'ont pas été capables d'éliminer les grenouilles. Ils les avaient fait venir, mais on fait quoi pour les retourner? Il était là. Là, Pharaon s'est retrouvé devant cette situation-là. Ces magiciens commençaient à manquer de pouvoir. Là. Dieu ajoutait. Alors, les magiciens n'ont pas été capables. Alors, Pharaon s'est trouvé dans une position très inconfortable, incapable de contrôler ce chaos-là. Et là, la situation se retourne. Pharaon ne chasse pas Moïse, mais, regardez bien, il demande à Moïse de régler le problème, d'en parler à Dieu pour que Dieu intervienne. Voyez-vous, Dieu se manifeste de cette façon-là, et là, Pharaon commence à voir qu'il y a une puissance derrière les hommes qui lui parlent. Pas parce que ces hommes-là sont importants, mais il y a quelqu'un derrière. Verset 4. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. » Il y a une petite concession. Il dit, « OK, chassez les grenouilles, mais je vais vous permettre d'aller faire des sacrifices. Je vais vous permettre de faire les sacrifices dont vous parlez. » Moïse va plus loin. Là, c'est intéressant. C'est comme un film. Hein? Si on regarde les détails dans la Bible, là, Moïse, là, décide de laisser à Pharaon, inspiré par Dieu, Moïse décide de laisser à Pharaon de choisir le moment où les grenouilles vont disparaître. Et ça c'est intéressant parce que ça doit produire un effet chez Pharaon. Regardez verset 5 ici, même chapitre 8 du livre d'Exode. Moïse dit à Pharaon, « À toi l'honneur de me fixer le moment où je dois intercéder pour toi auprès de Dieu, pour tes serviteurs et pour ton peuple, afin que le Seigneur retire les grenouilles loin de toi et de tes maisons. Il n'en restera que dans le fleuve. » Il dit à Pharaon, « OK, choisis le temps. » Le Pharaon devait être content parce qu'il a pensé encore être en contrôle. Parce que c'est monsieur le Pharaon là qui choisit quel moment Dieu va chasser les grenouilles. Il y a quelqu'un, le monsieur Pharaon, hein? C'est lui qui choisit le moment. Mais il n'est pas capable de chasser une grenouille lui-même, ni ses magiciens. Ça, c'est intéressant parce que ça nous montre le jeu de pouvoir là. Mais, encore une fois, quand le problème a été réglé, vous pourrez lire le contexte, son cœur s'endurcit encore. Il est écrit, là je veux préciser une chose, c'est écrit à différents endroits que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Je vous ai dit tantôt, faites attention à la petite phrase qu'on a lue là, le cœur de Pharaon s'endurcit, et à d'autres endroits on voit que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Il faut que j'explique quelque chose ici. Ça ne veut pas dire que Dieu est un Dieu sans merci qui s'est acharné sur Pharaon. Et ça ne veut pas dire non plus que le Pharaon n'était pas libre, que Dieu a endurci son cœur, qu'il n'avait pas le choix. Pharaon avait toujours le choix. Dieu nous a créés libres et on a toujours le choix. D'ailleurs, on aura le choix jusqu'avant le retour du Christ. Et certains vont encore manquer leur coup rendu proche du but. parce que justement, on a le choix. On peut abandonner Dieu, on peut se détourner de lui. C'est Pharaon lui-même, là je précise, c'est Pharaon lui-même qui a choisi d'endurcir son propre cœur, comme on a vu dans le verset tantôt là, que je vous ai mentionné. C'est Exode 7, verset 14. Pharaon a le cœur endurci, c'est ça que Dieu a dit. Donc, c'est Pharaon qui a décidé d'endurcir son cœur au point de départ. C'est ça qu'il faut voir. Il a choisi le sentier de la dureté de cœur contre Dieu. Ce que Dieu a fait, tout simplement, c'est qu'il l'a poussé dans la même direction où il était parti. Comprenez-vous? Et vous irez voir, en faisant des recherches, j'ai vu dans Lamentations 3, verset 65, ça donne le principe ici. Dieu dit, en parlant des méchants, « Tu les livreras à l'endurcissement de leur cœur. » Tu les livreras à l'endurcissement de leur cœur. Alors, c'est nous qui pouvons endurcir notre cœur, mais Dieu peut nous laisser aller dans cette direction-là. Et pour les fins de son plan, il peut même pousser certaines personnes, comme il a fait avec Pharaon. Alors, Pharaon a commencé par endurcir son cœur. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il dit, « Pharaon, tu veux jouer ce jeu-là? Je peux jouer moi aussi, au même jeu que tu veux jouer en endurcissant ton cœur, et je vais te débâtir. Je vais déboulonner l'image que tu as de toi-même en tant que contrôleur du chaos. Et tu vas voir que tu ne contrôles rien. » Voyez-vous? C'est ça qui s'est passé, en fait, dans l'expression que je vous explique. Allons plus loin. Prochaine plaie. Les mouches venimeuses, partout. Et quand les mouches venimeuses sont venues sur le pays, allons à Exode chapitre 8, quand les mouches venimeuses sont venues sur le pays, Pharaon accepte les sacrifices, mais dans le pays. Il dit, « OK, je vais vous laisser faire des sacrifices, mais vous ne dépasserez pas mes frontières. » Ça veut dire mon armée va vous avoir à l'œil encore. Je vais être encore en contrôle sur vous. Vous allez faire vos sacrifices à l'intérieur du pays. Mais Moïse refuse. OK? Dans le désert, regardez bien, 8:21. Commençons par lire le verset 21 de Exode 8. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. » Vous ne sortirez pas des frontières, comme je vous dis là. Mais Moïse refuse. Et après ça, Pharaon dit, « OK, vous irez dans le désert, mais pas loin. » Pas loin. Il essaie toujours de garder son contrôle. Exode 8, verset 24, un peu plus loin. Pharaon dit, « Je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel, votre Dieu, des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Restez proche de la frontière, l'autre bord, qu'on ait un œil encore sur vous. » Alors, les plaies continuent. Un autre plaie qui arrive, là, vous allez trouver cette plaie-là, et même plus qu'une plaie, au chapitre 9, la mortalité du bétail, les ulcères sur les hommes et les animaux, une immense grêle et du feu, ainsi de suite. Exode 9, verset 13. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. » Et regardez le verset 14. « Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur. » C'est à Pharaon qu'il adresse ce message, « contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches, Pharaon, que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. » Afin que tu saches. Voilà la leçon que Pharaon devait apprendre. Verset 15. « Si j'avais étendu ma main et que je t'ai frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre totalement. » Autrement dit, Dieu dit à Pharaon, fait dire à Pharaon, « J'aurais pu te détruire totalement. » Je suis un Dieu patient et je suis un Dieu bon et je veux que tu apprennes la leçon. Verset 16. Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Et ici, je m'arrête parce qu'il y a une dimension qui nous concerne dans cette petite phrase. Parce que voyez-vous, l'Église du Dieu vivant au temps de la fin, elle a la responsabilité d'annoncer l'Évangile sur toute la terre. Ce que nous sommes en train de faire maintenant, ce que nous sommes en train de compléter. Nous annonçons cet évangile-là avec l'histoire du monde qui vient derrière. Et même Pharaon y est inclus, parce qu'on parle de lui dans nos messages, comme Dieu avait demandé. tu diras à ton fils, au fils de ton fils, et tu enseigneras ces choses-là. C'est notre responsabilité de le faire. Verset 17 à 19 ensuite. Verset 17 à 19 de Exode 9. Voilà. « Si tu t'élèves encore contre mon peuple, et si tu ne le laisses point aller, voici, je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons et ils périront. » Voyez-vous, Dieu est un Dieu bon, hein? Il avertit Pharaon, il dit, écoute là, fais mettre à l'abri tes serviteurs et tous les troupeaux de l'Égypte, parce que demain, il y aura une grêle terrible, et ce qui sera à l'extérieur sera détruit. Et il y a eu deux sortes de réactions de la part des Égyptiens. Regardez le verset 20. Ceux des serviteurs de Pharaon, qui craignirent la parole de l'Éternel, firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Ils ont été épargnés, parce qu'ils ont craint ce qui leur était dit, l'avertissement. Ils ont dit, on ne prendra pas de chance, on va faire ce qu'il faut. Ils ont agi. Regardez le verset 21. D'autres ont rejeté l'avertissement. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel, comme certains le font au temps de la fin actuellement, mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs, avec les conséquences que ça a entraînées à ce moment-là, la destruction majeure qu'il y a eu. Après ça, il y a eu menace d'une autre plaie. On continue l'histoire. Les sauterelles, un ravage terrible dans toute l'Égypte, les récoltes détruites. Et là, Pharaon accepte de laisser les Israélites aller sacrifier au désert. Bon, déjà, ils peuvent aller plus loin. Mais, ce n'est pas tout. Il veut encore contrôler. Il dit, oui, allez-y, mais sans vos femmes et sans vos enfants. Seulement les hommes. Vous pourrez relire tout le récit avec les éléments que je vous donne. Vous allez voir, c'est vraiment frappant et on comprend davantage plus on regarde de proche. Exode 10 maintenant et le verset 11. Exode 10, verset 11. Pharaon, il vient de changer d'idée. Il avait dit oui avant. Là, il dit non, non. Allez, vous les hommes, donc les hommes seuls, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. Moïse avait précisé au verset 9, lisez un peu avant, Moïse répondit, « Nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête à l'honneur de l'Éternel. » Autrement dit, Moïse dit à Pharaon, « Notre religion, c'est une religion de famille. Dieu est un Dieu de famille. Ça inclut les hommes, les femmes et les enfants. » Si on laisse les enfants derrière et nos femmes derrière, c'est contraire à la pensée de Dieu, c'est contraire à la culture de Dieu et aux lois de Dieu. Puis après ça, il y a une autre plaie. Lui vient la plaie d'une noirceur totale durant 3 jours. Noirceur totale, il a tranché au couteau, tellement la Bible dit que c'était épais que les gens ne pouvaient pas bouger. Il fallait qu'ils restent en place où ils étaient, ils ne voyaient pas où ils allaient du tout. Puis cette plaie-là vient, noirceur totale, sur toute l'Égypte pendant 3 jours, sauf en Gozen, là où les Israélites avaient leur territoire. Exode 10, verset 22. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Verset 23, on ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. On ne peut pas bouger sans se frapper. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Verset 24, Pharaon appela Moïse et dit, « Allez, servez l'Éternel, il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. » OK, allez-y, tout le monde, là, femmes, enfants, les hommes, mais pas vos animaux. Mais là, Moïse va plus loin. Il dit, « Non, non, Pharaon, on va y aller avec nos animaux, et non seulement ça, tu vas nous fournir tes meilleures bêtes, tes meilleurs animaux pour qu'on fasse les sacrifices. » Alors, Moïse dit au verset 25, Moïse répondit, « Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. » Alors Moïse dit, « On va tous partir avec nos animaux et on va prendre les meilleures bêtes de tes troupeaux et tu vas nous les donner. » verset 26, nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas un ongle. Et c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu, et ainsi de suite, il continue. Alors, c'est intéressant de voir comment l'histoire s'est développée et comment à travers ça, Dieu s'est manifesté pour se révéler. Là, Pharaon commençait à réaliser de plus en plus qu'il avait affaire à quelqu'un de plus fort que lui. Avec tous ces événements-là qui s'étaient passés, et il commençait à réaliser de plus en plus qu'il avait affaire à un personnage inconnu jusque-là. Il ne connaissait pas l'Éternel. Même ses magiciens sentaient qu'ils étaient en présence d'un personnage extraordinaire qu'ils ne connaissaient pas non plus. Vous irez voir dans Exode 8, verset 15. Les magiciens dirent à Pharaon, « C'est le doigt de Dieu qui fait toutes ces choses-là. » Ils avaient une peur bleue. Alors voyez-vous, l'Égypte, qui sous Pharaon devait être harmonieuse et indivisible, était devenu, avec toutes ces plaies-là, chaotique et divisé. Dieu les avait divisés. Dieu avait même fait en sorte que certaines des dernières plaies ne touchaient pas les Israélites alors qu'elles s'abattaient sur les Égyptiens. Alors, ça devenait clair que c'était, il y avait une division claire. Comme, par exemple, la question des ténèbres qu'on a vue. Une noirceur a coupé au couteau dans tout le pays d'Égypte, sauf dans la région où les Israélites se trouvaient. Une harmonie, dans le fond, en Gozen, mais le chaos dans le reste du pays. Ça m'a fait penser à quelque chose quand j'ai préparé cette portion-là. Quand ce sera la grande détresse, il y aura chaos dans l'ensemble du monde et il y aura harmonie dans le lieu de sécurité où Dieu va emmener ses fidèles serviteurs. Il y aura encore une division dans ces deux sections-là. Tous ces événements-là, je vais plus loin, les plaies d'Égypte, y compris la mort des premiers-nés le soir de la Pâque, tous ces événements-là ont été connus dans le monde de l'époque. Écoutez, c'était quelque chose de gros, là, ce qui s'est passé en Égypte. Le pays au complet détruit, le grand empire égyptien. Alors, ça a été connu autour. La nouvelle s'est répandue. D'ailleurs, quand vous arrivez au livre de Josué un peu plus loin, on voit que quand Josué est entré avec les Israélites 40 ans plus tard, dans le pays que Dieu leur donnait, ils ont pris la ville de Jéricho. Mais les gens de Jéricho étaient terrifiés simplement à entendre parler des Israélites. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu les nouvelles de ce qui s'était passé 40 ans auparavant en Égypte, que l'Égypte avait été détruite, que toute l'armée la plus puissante de l'humanité à ce moment-là avait été radiée de la carte. Alors, ils avaient peur. Ça se comprend. Quand on voit le livre de Josué, c'est exactement ça. Alors, il avait connu la... Les gens avaient entendu parler de la mort des premiers-nés aussi qui s'était produit le soir de la Pâque. Alors, la nuit de la Pâque, après la mort des premiers-nés, Pharaon fit porter un message à Moïse et à Aaron. Ça dit qu'il les a commandés de venir, mais ce n'est pas ça. Il a envoyé un message, on voit dans le texte original. Exode 12, versets 31 et 32. Exode 12, versets 31 et 32. Dans la même nuit, la nuit de la mort des premiers-nés, Pharaon appela Moïse et Aaron. Et dans le texte original, le mot c'est « koura », K-O-U-R-A en hébreu. Et ça signifie « faire parvenir un message ». Parce que vous vous rappelez, Moïse et les autres ne devaient pas sortir de leur maison le soir de la Pâque. Après avoir mis le sang sur la porte et les poteaux, ils ne devaient pas sortir. Donc Moïse n'est pas sorti pour aller écouter Pharaon. C'est Pharaon qui a envoyé un message à Moïse à ce moment-là. Dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis, vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. » Alors Pharaon chasse les Israélites. Pharaon reconnaît sa défaite. Il est rendu au bout du rouleau, là. Mais, je vais plus loin, puis vous allez comprendre, il n'accepte pas l'Éternel. Il reconnaît que Dieu est tout-puissant. Il reconnaît sa défaite. Il chasse les Israélites parce qu'il y a une peur bleue de ce qui pourrait encore survenir. Mais il n'accepte pas l'Éternel. Il avait seulement une connaissance très physique de l'Éternel. Sa connaissance était limitée aux manifestations physiques que Dieu faisait autour par les displays. Mais dès que ça disparaissait, Il n'y avait plus d'idée de Dieu. Dieu n'est plus là, ça n'a plus d'importance. Voyez-vous, c'est pour ça que je vous dis que Pharaon avait une connaissance très limitée, une connaissance seulement physique. Quand il voyait des choses physiques qui arrivaient, là, il savait qu'il y avait quelqu'un derrière ça, mais s'il n'y avait pas ces événements majeurs, ça n'avait pas d'importance pour lui. Il n'acceptait aucunement Dieu. Vous savez, c'est un principe important. On peut croire en Dieu, mais ne pas l'accepter. On peut croire en Dieu, mais ne pas l'accepter. Je vais vous dire un groupe d'individus qui sont caractérisés par ça, les démons. C'est marqué dans la Bible. Ils croient en Dieu, hein, mais ils ne l'acceptent pas. Ils croient en Dieu pourtant. Maintenant, je vais plus loin. Qu'en est-il des Israélites? Comment est-ce que Dieu s'est fait connaître à eux? Il s'est présenté à eux comme un Dieu de famille. Il s'est présenté à eux comme un Dieu de famille. Vous irez voir dans Exode 4, verset 5. Là, il énumère les patriarches. Et ça indique qu'il est un Dieu de famille. Je vais vous le donner en passant. Exode 4, verset 5. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Dieu s'est présenté comme le père de la famille, le Dieu de famille. Et comment il s'est présenté aux Israélites encore? Exode 6, verset 7. Exode 6, verset 7. Il dit ceci, « Je vous prendrai, il parle aux Israélites, pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. » Donc, Dieu se présentait aux Israélites comme celui qui avait le pouvoir de régler leurs problèmes physiques. Et il l'a manifesté par la suite. Ils ont vu la délivrance totale. Allez à Exode 14, vers la fin d'Exode 14. Ils ont vu la délivrance que Dieu leur a accordée. Versets 30 et 31. Je refais un film en mettant les petits bouts pour qu'on voit l'ensemble de l'événement. Alors, versets donc 30 et 31. « En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts, une fois que Dieu a ramené les eaux de la mer Rouge sur l'armée de Pharaon. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel. Et il crut en l'Éternel. » Et en Moïse, son serviteur, c'est donc beau. Ils ont cru en Dieu, puis ils ont cru en Moïse à ce moment-là. Mais ils ne réalisaient pas l'énormité de ce qui se passait et ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne connaissaient pas réellement Dieu. Ils en sont arrivés à craindre l'Éternel, mais pour combien de temps? Vous allez simplement un petit peu plus loin à Exode 15, verset 22. Exode 15, à partir du verset 22, ils ont manqué d'eau potable, et là, ils ont fait tout un plat, ils ont commencé à accuser Moïse, ils ont commencé à se détourner de Dieu, à remettre tout en question. Ils venaient d'être délivrés de façon incroyable, d'avoir vu les 10 miracles que Dieu avait faits, leur délivrance épouvantable, époustouflante, mais ça, déjà, ils se sont détournés. Et ils ne voyaient plus Dieu. Quand ils ne voyaient pas une intervention directe de Dieu, ils ne voyaient plus Dieu. Ils ne voyaient plus qu'il y avait un personnage important qui s'occupait d'eux. En fait, ils ne sont jamais arrivés à comprendre vraiment qui est l'Éternel. Ils ont eu peur en cours de route avec les expériences. Ils ont cru que Dieu existe, mais ils n'ont jamais développé une relation personnelle et directe avec lui. Pour le prier, pour changer, ça n'a jamais été le cas. Aucun signe de connaissance réelle du Dieu de la Pâque, ce Dieu qui les avait délivrés. Maintenant, comment Dieu s'est-il fait connaître aux Égyptiens? Vous pourrez aller voir dans Exode 7 et le verset 5. Exode 7, verset 5. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Il dit là, les Égyptiens vont savoir qu'il existe un grand personnage qui est capable d'accomplir ces choses-là. Et en plus, il s'est fait connaître à eux d'une façon un petit peu plus précise pour ceux qui ont vraiment pris sa parole au sérieux. Vous savez, quand Dieu a dit, là, je vais envoyer une grosse grêle demain, là, si vous entrez vos troupeaux, et vos serviteurs, vous allez être protégés. Ceux qui l'ont fait ont été protégés. Alors, sans connaître vraiment le vrai Dieu, ceux qui ont mis en pratique ce qui leur était dit ont été protégés. Donc, c'est une façon par laquelle Dieu s'est fait connaître à certains d'entre eux. Après la mort des premiers-nés, les Égyptiens étaient terrifiés. Ils suppliaient les Israélites de s'en aller et leur ont offert tout ce qu'ils avaient de précieux. Pourquoi? Pas pour aller obéir à l'Éternel, mais pour retrouver leur petite vie paisible d'avant. On ne veut rien savoir de vous autres, mais on ne veut rien savoir de votre Dieu. On veut juste avoir la paix. On ne veut plus avoir rien de ça. Ils ne connaissaient pas l'Éternel, parce qu'ils avaient vraiment connu Dieu, ils auraient voulu, eux aussi, lui obéir, puis marcher dans ses voies. Ils n'ont pas dit « on veut suivre l'Éternel ». Maintenant, je vais vous donner un autre aspect intéressant de la situation. Certains prétendent, à tort, et ça c'est par raisonnement humain, que les plaies en Égypte étaient de simples phénomènes normaux, mais comme poussés plus loin. La grêle, il y en a, mais là, il y a eu une grêle plus forte que d'habitude, voyez-vous. Et là, ils ont mis ça comme plaie et d'autres choses comme ça. Certains raisonnent humainement autour de ça. Mais ce qui s'est produit en Égypte, ce n'était pas de simples phénomènes naturels. Rappelez-vous une chose, l'ordre naturel des choses, elle est établie par qui? Elle est établie par Dieu. C'est Dieu qui a créé toutes choses, qui a établi les règles qui régissent le fonctionnement de l'univers, et ainsi de suite. Toutes les lois qui existent dans la création, les belles vagues de la mer qui peuvent arriver sur le rivage avec une belle musique, l'odeur des fleurs, le jour, la nuit, la chaleur. Mais Dieu peut aussi renverser cet ordre des choses pour accomplir son but. C'est lui qui a établi l'ordre dans la nature. Mais Dieu a le pouvoir de renverser l'ordre des choses pour accomplir le but qu'il veut accomplir. Vous savez, le nombre 10 pour les plaies, ce n'est pas un nombre aléatoire, à peu près comme ça. Et c'est pas, Dieu n'a pas dit, je vais envoyer 10 plaies, parce qu'à la 10e, là, Pharaon ne sera pas capable d'en endurer plus. Il aura eu son quota. Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça, vous allez voir. Le nombre 10, en termes de création, est assez spécial. C'est un nombre critique. Et c'est intéressant de voir qu'il y a certains rabbins qui disent qu'il a pu y avoir 10 actes de création dans Genèse 1, entre le verset 3 et 26. Il a pu y avoir 10 actes de création pour établir l'ordre de l'humanité, l'ordre de la création. OK? Donc, il a pu avoir, on peut l'interpréter de cette façon-là, c'est pas mal, il a pu avoir 10 étapes dans la création de l'ordre des choses. OK? Ce que vous retrouvez dans les 10 plaies, dans le fond, quand Dieu a envoyé les 10 plaies en Égypte, qu'est-ce qu'on retrouve par rapport à l'ordre des choses? C'est la déconstruction de ces actes de création. C'est l'inverse. Au lieu de créer, Dieu a détruit. Au lieu de garder l'harmonie, Dieu a créé le chaos. Il a ramené ça à l'arrière, devant les yeux des Égyptiens. Rappelez-vous que les actes de création faits dans Genèse 1 ont changé quelque chose. Ils ont changé quoi? C'était le chaos avant que Dieu intervienne pour faire la recréation. OK? C'était le chaos avant. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, il y avait de la boue tout autour de la terre, il y avait des ténèbres partout et tout ça. Et Dieu a recréé, c'est-à-dire qu'il a ramené l'ordre des choses à partir du chaos. C'est ça que Dieu a fait. Et dans ce qui s'est passé en Égypte, le Créateur montrait à Pharaon et à tous ceux qui accepteraient, y compris vous et moi, qu'il a la puissance, lui seul, d'inverser le processus dont je vous parle. De créer le chaos, s'il le faut, à partir de l'ordre, comme il est capable de créer l'ordre à partir du chaos. De transformer ce qui est ordonné en chaos, si c'est ce que ça prend pour nous amener ou vous amener à comprendre qui est l'Éternel. C'est fort. Il y a beaucoup qui s'est passé dans ça. Et quand vous regardez ce qui va se passer bientôt lors de la Grande Détresse, en particulier dans la dernière année des 3 années et demie de la Grande Détresse, c'est quoi la dernière année? C'est le jour de l'Éternel. C'est le jour où Dieu intervient avec puissance et qui ébranle les nations par toutes sortes de quoi? De plaies, de fléaux. Vous irez voir dans Apocalypse 16. C'est la même chose. Donc Dieu va défaire l'ordre des choses pour amener le chaos total sur l'humanité, comme il a fait en Égypte, pour que les gens réalisent qu'il existe un Créateur tout-puissant qui est en contrôle de toutes choses et que la fin de l'histoire humaine est proche, que le Christ va bientôt revenir pour établir un monde heureux sur la face de la terre. Ce qui arriva en Égypte, ce n'est pas une coïncidence. C'est une planification prouvant qui Dieu est, prouvant la nature de sa puissance. Rappelez-vous que Pharaon était celui qui devait contrôler le chaos, hein? Je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Mais Dieu lui a prouvé que Pharaon n'avait aucun contrôle sur le chaos que Dieu pouvait créer. Pharaon ne pouvait pas renverser ça, absolument pas. Vous savez, il ne faut pas prendre le grand Dieu qu'on sert, il ne faut pas le prendre à la légère. Il est puissant, il accomplit exactement ce qu'il a dit. Ce qui est arrivé entre Dieu et Pharaon, je vois plus loin. Ce qui est arrivé entre Dieu et Pharaon, ça se passe actuellement sur la face de la terre. Il y a un Pharaon qui règne, le petit Dieu de ce siècle, Satan, qui est derrière toutes les méchancetés, qui est derrière tout ce qui se passe de mal sur la terre. Dieu le permet pour l'instant. On l'appelle le petit Dieu de ce siècle, c'est le Pharaon. Dieu est encore là et Dieu est en train de préparer la fin du règne de ce Pharaon-là. Et pour ce faire, il va envoyer une série de plaies également pour que l'humanité comprenne qui est en charge, que c'est lui qui mène et qui amène les choses là où il veut les amener. Actuellement, les humains suivent aveuglément Satan. Ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Toute l'humanité doit en arriver à connaître Dieu, non seulement à savoir qu'il existe, mais à intégrer les valeurs de Dieu, à faire leur les commandements de Dieu, sa façon de vivre, sa façon de penser. Donc, à vivre les pains sans levain, à pouvoir prendre la Pâque à un moment donné, tout ça, à changer complètement pour entrer dans la vraie culture de Dieu et faire un jour partie de sa famille. Voyez-vous, il faut que les gens en arrivent à voir que non seulement Dieu peut régler des problèmes physiques, oui, mais ce n'est pas ça l'essentiel, ce n'est pas ça le principal. Le principal, c'est que nous changions et que nous devenions comme le Père et comme Jésus-Christ pour naître un jour dans sa famille, parce que c'est ça le grand but que Dieu poursuit. C'est intéressant, je ne développerai pas, mais vous irez voir, si vous voulez, dans Ézéchiel. Ézéchiel parle de l'époque où on est. Et dans Ézéchiel, il y a la mission de l'Église du Dieu vivant qui est bien mentionnée, qu'on doit avertir le monde de ce qui s'en vient pour servir de témoignage. C'est notre responsabilité. Et quand vous regardez les premiers 40 chapitres du livre d'Ézéchiel, à tout bout de champ, vous voyez cette phrase-là, « Et ils sauront que je suis l'Éternel. » Et ils sauront que je suis l'Éternel. Quand je ferai ce que j'annonce dans le livre d'Ézéchiel. Une fois que ça va être fait, ils vont savoir que je suis l'Éternel. Ça, c'est dans les 40 premiers chapitres. Et vous savez combien de fois cette petite phrase-là revient? Dans les 40 premiers chapitres, 63 fois. Ça dit « Ils sauront que je suis l'Éternel ». Et dans les 8 autres chapitres qui suivent, à ce moment-là, les gens vont savoir, parce qu'on va être rendu plus loin. Ça décrit le temps où le Christ sera revenu, où la terre sera en paix, où le Christ sera à Jérusalem, où le nouveau temple sera bâti, où les gens adoreront dans l'ensemble le vrai Dieu. Alors, on est rendu à ce moment-là à une autre étape, ça aura été fait, ça aura été accompli. Vous irez voir dans Jérémie 31, versets 31 à 34, à cette époque-là, Dieu dit, « Je mettrai mes lois au-dedans d'eux. Celui-là n'enseignera plus son prochain en disant, « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. » Et le Christ a parlé dans le même sens avant de mourir. Jean 17, verset 25, vous irez voir. Lorsqu'il prit son Père, il dit, « Père, le monde ne t'a pas connu. » Et le monde ne connaît pas Dieu encore, ne connaît pas le Christ non plus. Ils ont un faux Christ aux cheveux longs qui observe le dimanche, qui est efféminé, qui est tout ce que vous voulez. Sincèrement, les gens adorent ce genre de Christ-là, mais qui n'est pas le vrai Christ. Mais le Christ dit dans Jean 17, verset 25, « Père, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci, tes appelés, tes disciples, ont connu que tu m'as envoyé. » Et il continue l'explication ensuite. Donc, ceux qui sont appelés et qui mettent en pratique les lois de Dieu, qui vivent la fête des pains sans levain, qui se préparent pour la Pâque, soit de cette année s'ils sont baptisés ou une autre année s'ils sont baptisés en cours d'année, ceux-là appartiennent à Dieu et Dieu continue de leur révéler qui il est. C'est intéressant parce que M. Nathan, dans son sermon, mentionnait une chose que je dois vous souligner. Jean 15, allons-y, tiens, Jean chapitre 15, ça vaut vraiment la peine. Jean chapitre 15, parce que ceux qui sont appelés ont des étapes à passer, ont des conflits à traverser, des persécutions à vivre, et ça a été le cas de l'Église au cours de l'histoire. C'est notre cas parfois actuellement, certains de nos frères dans certains pays, et ça sera possiblement notre cas plus tard. Verset 15, verset 18, Jean 15, verset 18. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, et on n'est plus du monde, on a changé de façon de faire. On vit dans le monde, mais on ne fait plus les mêmes choses qu'avant. Le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Monsieur Nathan rappelait un épisode, à un moment donné, il était allé dans un pays africain, et puis il était allé dans une station de radio, en revenant, je pense, de la fête des tabernacles, et il avait dit, bon, il y a une station de radio dans tel pays qui pourrait peut-être diffuser nos émissions, et il était allé rencontrer le directeur, qui était un Américain, et lorsqu'il s'est présenté, ça n'a pas été long, ça a été très froid, et le monsieur est devenu même agressif, et monsieur Nathan lui a demandé pourquoi. Et il dit, on fait-tu quelque chose de pas correct? Il dit non, mais il dit, c'est à cause de ce que vous êtes, sorti de nulle part. Autrement dit, vous êtes des gens de Dieu, c'est à cause de ce que vous êtes qu'on vous haït, qu'on ne veut pas vous avoir sur nos ondes, qu'on ne veut pas vous avoir là. C'est assez fort comme réaction, mais ça correspond à ce qui est marqué ici. C'est comme M. Nathan nous expliquait. Verset 20, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et il y aura de la persécution. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » On revient à la même chose, hein? Le monde ne connaît pas Dieu. En général, le monde ne connaît pas Dieu. À nous, Dieu offre une relation basée sur une transformation du cœur, un changement total qui nous permet de le connaître. Comme Moïse a appris à connaître Dieu à travers ce qu'il a vécu, parce que Dieu, dans le cas de Moïse, il l'appelait et il lui a donné son Saint-Esprit. D'ailleurs, vous voyez la preuve de ça en lisant ce qu'on appelle le Cantique de Moïse. À la fin du livre d'Exode, Exode chapitre 15, si ma mémoire est bonne, oui, Exode chapitre 15. Moïse en est arrivé à connaître le vrai Dieu, et on le voit dans ce cantique-là. D'ailleurs, le nom de Moïse est mentionné parmi la liste des héros de la foi dans Hébreux chapitre 11. C'est formidable. Alors écoutez, préparons la Pâque de tout cœur. Ceux qui ne sont pas encore baptisés, préparez quand même comme il faut, en vous préparant pour vivre la fête des pains sans levain de bonne façon, pour qu'une autre année, vous puissiez prendre la Pâque. Maintenant, ceux qui sont baptisés, préparez la Pâque de tout cœur, avec beaucoup de reconnaissance envers Dieu. Approchons-nous de lui par la prière, par le jeûne, en étudiant des choses en rapport avec ça, en faisant notre ménage physique, bien sûr, sans exagérer, en faisant surtout notre ménage spirituel, animé d'un désir réel de nous purifier en tout. Si nous nous approchons du Dieu de la Pâque, il va s'approcher de nous et il va nous bénir. Il va nous donner la force dont nous avons besoin pour continuer vers la vie éternelle, quelles que soient les épreuves ou les circonstances ou les difficultés de nos vies. Vous savez, en prenant la Pâque cette année, pensez à cette merveilleuse promesse que vous pourrez trouver dans Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est Jésus-Christ qui parle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Il parle des appelés, des disciples. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors voyez-vous, il associe clairement le fait de connaître le vrai Dieu et d'avoir la vie éternelle. Pour obtenir un jour l'immortalité, il nous faut développer de plus en plus de connaître le Dieu de la Pâque. Ayant cette promesse à l'esprit, qu'elle soit au cœur de votre motivation d'enfant de Dieu au cours des magnifiques fêtes du printemps.